Vous êtes bien à l'écoute de RFI 20h à Paris, 19h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. En Allemagne, les conservateurs remportent nettement les élections législatives qui ont eu lieu ce dimanche. Un scrutin marqué par une progression inédite de l'extrême droite. Le chancelier sortant, Olaf Scholz, assume la responsabilité de cette défaite. Volodymyr Zelensky prêt à échanger son poste contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la paix dans son pays. Le président ukrainien disposé à conclure un accord avec toute personne sérieuse. Vous l'entendrez. Le pape François, toujours dans un état critique, les chrétiens du monde entier prient pour son rétablissement. Et puis la France qui bat son record de points au tournoi Destination. C'est du rugby, victoire 73 à 24 contre l'Italie. En Allemagne, Friedrich Merz veut un gouvernement aussi vite que possible pour faire face aux défis internationaux. À la tête du parti conservateur qui arrive en tête du scrutin, l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, réalise de son côté son meilleur score, le meilleur score de son histoire. Il arrive en deuxième position selon les sondages de sortie des urnes. Le chancelier Olaf Scholz et le parti social-démocrate essuie, eux, un revers historique. Le chancelier allemand qui dit assumer la responsabilité de cette défaite, on l'écoute.
Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser.
Les résultats étaient meilleurs la dernière fois et j'en étais responsable. Cette fois, les résultats sont mauvais et j'en porte également la responsabilité, je veux le dire ici.
Das möchte ich an dieser Stelle sagen.
Je veux également féliciter la CDU-CSU et Friedrich Merz qui a pour mission de constituer le prochain gouvernement. Félicitations pour les résultats des élections.
Herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis.
Je vais effectuer mon mandat jusqu'à la fin. Maintenant, c'est aux autres de se mettre d'accord pour constituer un gouvernement.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Julien Chavannes. Cela fera 3 ans demain que la Russie a envahi l'Ukraine, 3 ans de guerre. Et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, la donne a changé face au président américain qui veut négocier un accord de paix avec la Russie. Le chef d'État ukrainien espère que sa rencontre demain avec les dirigeants de pays européens constituera un tournant. Volodymyr Zelensky qui s'est dit prêt à mettre sa démission dans la balance si ça peut servir à rétablir la paix dans son pays, mais aussi à permettre une adhésion à l'OTAN.
Si l'on parle de la paix en Ukraine et qu'en échange je dois quitter mon poste, je le ferai. Deuxièmement, je le ferai aussi si c'était la condition pour adhérer à l'OTAN. Je le ferai immédiatement sans que nous ayons à en parler longuement. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et pas dans 20 ans. Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pour des décennies. Par conséquent, cette sécurité de mon pays, c'est mon but et mon rêve.
Le président ukrainien qui souhaite aussi rencontrer Donald Trump avant un possible sommet entre le président américain et Vladimir Poutine. La sécurité en Europe, au cœur des préoccupations des Européens. En Belgique, le retour du service militaire pour les volontaires. Supprimé il y a 30 ans, le nouveau gouvernement fédéral souhaite progressivement mettre en place 1 an de service militaire pour les jeunes qui le souhaiteraient sur la base du volontariat. Si toutes les modalités ne semblent pas encore bien définie, l'expérimentation pourrait débuter très vite à Bruxelles. Les précisions de Jean-Jacques Herry.
Jamais depuis 1994 et la suppression du service militaire obligatoire, on n'était revenu sur cette décision en Belgique, y compris de manière partielle. Même si le nouveau dispositif se base sur le volontariat, cela représente un changement de paradigme dans le Royaume, selon Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, avec en toile de fond un contexte géopolitique qui joue le rôle de catalyseur.
Aujourd'hui, avec les questions qui se posent sur la continuité à long terme de la solidarité américaine dans le cadre de l'OTAN, il est clair que la Belgique se rend compte effectivement que la question de la sécurité européenne sera désormais un problème qui devra être pris à bras-le-corps par les Européens eux-mêmes et donc aussi par la Belgique.
Le but de ce service militaire allégé d'une durée d'un an est destiné aux femmes et hommes de 18-25 ans et de former des troupes capables ensuite d'évoluer au sein de réserves de défense territoriale. L'idée étant de pouvoir prêter main forte aux militaires professionnels en cas de besoin. Cela permettra d'accroître la résilience de la Belgique face à une situation géopolitique extrêmement volatile et une Russie agressive, a expliqué le général Frédéric Vansina, grand patron de l'armée belge. Dans une interview accordée à la Libre Belgique, il dit espérer un démarrage progressif du dispositif dès l'année prochaine. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
La France doit produire plus et mieux. Déclaration de la ministre de l'Agriculture aujourd'hui au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes hier à Paris. Dans ce moment de grand bouleversement de l'ordre international, la France doit affirmer sa souveraineté agricole comme un enjeu régalien, a dit Annie Genevard. Dans son discours, il n'a pas du tout été question de transition agroécologique, ce qui était jusqu'à l'an dernier présenté comme une priorité du gouvernement. Une position saluée par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Au Proche-Orient, cette foule immense ce dimanche pour assister aux funérailles d'Hassan Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le leader du Hezbollah libanais a été tué dans une frappe de l'armée israélienne fin septembre après 32 ans à la tête de l'organisation. Des milliers de partisans se sont rassemblés, l'occasion aussi de renouveler leur allégeance au mouvement pro-iranien affaibli par la guerre avec Israël. Dans un message publié ce dimanche, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a promis de poursuivre, je cite, la résistance à Israël. Le pape François se dit confiant en ses traitements. Le chef de l'église catholique est hospitalisé depuis plus d'une semaine. Il souffre d'une pneumonie des deux poumons. L'état de santé du souverain pontife âgé de 88 ans reste critique. À travers le monde. François était donc dans toutes les prières des fidèles ce dimanche. Reportage d'Elisa Fellier à la sortie de la messe en région parisienne.
11h ce matin, sur le parvis de l'église, le père Ulrich Tchikaya vient de célébrer la messe.
On prie pour le pape tous les jours à chaque célébration eucharistique. Mais par rapport à ce qu'il est en train de traverser, nous avons eu une pensée particulière pour lui. Et toute l'église s'est levée pour prier pour la santé de son pasteur.
Catherine fait partie des fidèles qui se sont levés. Depuis l'hospitalisation du pape, elle surveille souvent son téléphone.
Pendant la messe, j'ai regardé s'il n'y avait pas eu un petit drame. Il faisait beaucoup. La preuve, c'est qu'il travaillait jour et nuit, je crois. Il a usé sa santé. C'est un homme qui a lutté, lutté, lutté sur tous ces derniers temps. Et je crois qu'il a encore des choses à nous dire.
Louis, 38 ans, se rend à la messe tous les dimanches.
C'est quelque chose qui nous touche parce que c'est vraiment notre... C'est lui qui nous conduit.
D'autant plus que Louis a rencontré le pape en 2023 lors d'un passage au Vatican.
Avec ma femme, on a eu la chance de lui serrer la main et de discuter brièvement avec lui. Ce qui nous marque beaucoup, c'est sa proximité avec les gens, dans sa simplicité de parole. Ça fait quoi ? Ça fait 13 ans qu'il est là. On se pose un peu des questions pour la suite, en disant qu'est-ce que tout son héritage là, qu'il nous a laissé d'ouverture, de proximité avec les gens, comment est-ce que cela va perdurer, ouais.
En attendant des nouvelles rassurantes de la santé du pape, Louis continue de prier pour son rétablissement.
Reportage signé Elisa Fellier. 112 migrants secourus lors de deux sauvetages au large des côtes libyennes. L'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, a d'abord secouru hier 25 migrants, dont une femme enceinte. Ce matin, le bateau a pris en charge 87 personnes qui se trouvaient sur une embarcation en bois. Ces candidats à l'exil venaient du Bangladesh, de Somalie ou encore d'Égypte, selon l'ONG, dont le navire se dirige désormais vers Livourne, le port assigné par les autorités italiennes. Pour débarquer. Du rugby avec cette victoire du 15 de France face à l'Italie lors de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Très large victoire hein, sur un score de 73 à 24. Une véritable démonstration. Bonsoir Cédric De Oliveira.
Bonsoir.
Les Français avaient beaucoup à se faire pardonner. Ils ont été brillants en Italie.
Et les Bleus restaient sur une défaite frustrante en Angleterre il y a deux semaines d'un point. Eh bien, ils ont rassuré tout le monde après cette impressionnante prestation offensive à Rome. Rome. 73 points, 11 essais. Jamais ils n'avaient marqué autant dans l'histoire de la compétition. Et ce sont pourtant les Italiens qui ont inscrit un essai les premiers. Mais derrière, la machine bleue s'est mise en route en allant 5 fois dans le but adverse. Il y avait 35-17 à la pause. Et la suite a été du même acabit. Antoine Dupont, auteur d'un doublé, a encore été déterminant. Mais 11 essais ont donc été marqués au total par Guillermo Vaca, Boudouan, Aldritz, Bielbiaré, Atisogbe, Barassi et un autre doublé de Léo Barret. 73-24 donc, le 15 de France se relance et peut toujours rêver remporter le tournoi. Il lui faudra forcément battre l'Irlande lors de la prochaine journée.
Et ce sera le 8 mars prochain. Merci Cédric de Oliveira.